c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur
Nous sommes au Québec. Notre studio est installé dans les bureaux du port de Montréal, à quelques mètres du fleuve Saint-Laurent, à l'occasion de la deuxième session des initiatives pour l'avenir des grands fleuves, un observatoire international qui a réuni ici, pendant 3 jours, une vingtaine d'experts de tous les continents, des gestionnaires de fleuves comme le Mékong, le Parana ou le Brahmapoutre, mais aussi une archéologue ou un spécialiste des religions. Bonjour Elisabeth Hérault.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Compagnie nationale du Rhône. C'est vous qui avez eu l'idée de créer cet observatoire. Alors quel est son objectif ?
L'objectif, c'est que les fleuves puissent se parler entre eux, que nous puissions échanger sur les pratiques des uns et des autres et que nous puissions faire valoir à l'ensemble de la planète l'importance déterminante qu'ont les fleuves dans nos paysages, dans notre vie au quotidien, dans la navigation, la production d'énergie, etc.
Alors la première session a eu lieu à Lyon, c'était en novembre dernier. Là, c'est la deuxième session. Quel bilan en faites-vous ?
Alors j'aime bien une expression que Éric Orsenna a dite, c'était à Lyon. Ce qui était important, c'est que les gens aient répondu présents, donc ils sont venus. Mais ce qui était encore plus important, c'est qu'à Montréal, ils sont revenus. Donc il faut croire que le bilan de la première session était bon. Et je suis persuadée que de ces échanges naissent à la fois des idées pour les uns et les autres, des améliorations de notre pratique au quotidien de ces fleuves. Et j'espère que nous arriverons à faire partager à nos gouvernants, aux décideurs, aux parties prenantes, ce que nous avons encore échangé cette deuxième session, au cours de cette deuxième session.
Alors Madinba, vous êtes le secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez participé à la première et à la deuxième session. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette initiative ?
Lorsque on m'a demandé de venir y participer, quand j'ai vu la liste des participants, je me suis dit que peut-être j'aurais quelque chose, peut-être, à apporter à ce forum, mais j'étais persuadé que j'avais énormément de choses à apprendre auprès des gens que j'ai vus sur la liste. Et la première et la seconde participation m'ont entièrement donné raison. J'ai trouvé que c'était un cadre à la fois d'échange intense d'idées, mais aussi de partage de toutes les bonnes pratiques qui se font autour des fleuves.
Oui, parce que voilà, c'est compliqué de gérer un fleuve, on va en parler tout à l'heure, ouais. Notamment un fleuve comme le fleuve Sénégal. Et alors justement, dans cet observatoire, je le disais en introduction, il y a aussi une archéologue, un spécialiste de religion, et puis vous, Mirdad Kazanji, vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur de la Guyane, vous venez de rejoindre l'observatoire. Alors quel est votre intérêt ? Parce que vous êtes plutôt du côté médical.
Oui, tout à fait. En fait, je dirige un institut de recherche en Guyane. Et dans cette initiative aussi, il y a une des fleuves de Guyane qui est le Maroni, qui est considéré comme un point important à développer, à travailler. Et le fleuve, comme peut apporter la vie, il peut aussi apporter des maladies. Il y a plusieurs exemples de cela, comme par exemple dans ma carrière, j'ai vécu en Afrique. En Centrafrique notamment, le Bangui, c'est un vecteur de maladies comme par exemple l'épidémie de choléra. Elle était un jour transmise à travers le fleuve. En Guyane, il y a des problèmes des métaux lourds, comme par exemple le mercure, le plomb, qui provoquent des maladies très graves chez les humains, notamment chez les femmes enceintes et l'enfant. Donc le fleuve est fantastique, mais il faut savoir bien traiter. Il faut apporter vraiment quelque chose d'important pour que les gens autour de fleuves puissent vivre bien.
C'est-à-dire que la santé du fleuve a un impact sur notre santé à nous.
Tout à fait.
Alors Éric Orsenna, vous êtes économiste, écrivain, membre de l'Académie française. Vous présidez ces initiatives pour l'avenir des grands fleuves. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est assez intéressant à travers les témoignages qu'on vient d'entendre. Là, on n'a que 2 experts. Il y en a une vingtaine qui ont participé à cette session de 3 jours. C'est ça l'idée, c'est d'avoir différents points de vue sur tous ces grands fleuves qui sont globalement quand même tous aménagés par l'humain.
Ils sont aménagés, mais ils sont aménagés d'une façon morcelée. C'est-à-dire que ceux qui fabriquent de l'énergie parlent à ceux qui fabriquent de l'énergie, ceux qui fabriquent du transport offrent du transport, parlent à ceux qui font du transport, ceux qui irriguent parlent uniquement aux agriculteurs, alors qu'un fleuve c'est une unité d'une part et c'est un trésor. Et notre idée, c'est qu'on peut mieux valoriser ce trésor. Et justement, en ayant une conception à la fois globale de chaque fleuve, original de chaque fleuve, parce que aucun fleuve ne se ressemble. Je suis romancier, donc évidemment, j'ai envie de raconter chaque histoire, mais j'ai aussi envie, en tant que économiste mais engagé dans la vie de la société, de dire que si on pouvait mieux gérer les fleuves, serait mieux pour la planète et plus directement, serait mieux pour les populations qui entourent les fleuves. Si vous développez le transport fluvial, vous remplacez 200 camions par une barge. Si vous avez plus d'énergie renouvelable, ça diminue l'effet de serre. Si vous gérez mieux l'irrigation, vous prévez moins d'eau et en même temps vous pouvez produire tout autant, etc. Et puis il faut gérer les inondations. Le dérèglement climatique, ça veut dire qu'on alterne la sécheresse et des inondations terribles. Donc vous voyez, et avoir des gens qui sont non seulement divers dans leurs compétences, mais qui viennent du monde entier. Vous imaginez, du Laos au Paraguay, au Canada, bien sûr. Vous avez évidemment du Sénégal un peu partout. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Le fleuve tisse, le fleuve rassemble. Parmi les plus grandes civilisations, elles sont nées au bord des fleuves. Parce que le fleuve, c'est la vie. Donc il faut écouter ce que nous racontent les fleuves. Et essayer à la fois de tirer notre part pour nous humains, mais en même temps d'écouter ce que dit la nature.
Et cet observatoire, donc là, pendant 3 jours, il y a donc eu des discussions. Alors, ça se passait ici, donc à côté du fleuve Saint-Laurent, qu'on voit par la fenêtre. Le principe, c'est de partir d'un cas pratique dans le pays où a lieu la réunion.
Toujours un cas pratique, parce que notre idée, bien sûr, on discute sur les fleuves, mais moi, j'aime bien discuter, mais j'aime bien aussi apporter aux décideurs des conclusions pratiques. Et là, par exemple, la question qui était posée, c'est ce fleuve, l'immense fleuve du Saint-Laurent, est en bord d'une très grande ville, qui est Montréal, et puis il y a un port qui est un des plus importants de l'Amérique du Nord. Donc comment est-ce qu'on peut rassembler toutes ces fonctions, tous ces usages d'un fleuve, en évitant la pollution, en permettant aux bateaux de grandir, en permettant au port de se développer?
Comme on l'a entendu dans la première partie de l'émission avec le reportage, ce n'est pas simple, en effet.
Et comment peut-on faire accepter? On sait bien qu'en France, il est extrêmement difficile, voire impossible, de créer un nouvel aéroport, de créer un nouveau barrage, etc. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on essaye de voir les nouvelles méthodes d'acceptabilité par les populations de nouveaux développements économiques. Et ça, c'est passionnant, parce que vous savez, les inventions, elles ne sont pas seulement techniques, elles sont aussi sociales, elles sont aussi dans le dialogue. Parce que même si vous avez les possibilités techniques, si ce n'est pas accepté, eh ben, on n'avancera pas.
Guillaume Marcy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Université à l'École des Mines de Paris et vous êtes membre de l'Académie des Sciences et puis un spécialiste, pour simplifier, mondialement reconnu. Si, vous levez les yeux au ciel, mais oui, tout le monde dit oui autour de la table. Voilà, c'est votre professeur Éric Orsenna, donc la gestion de ces ressources en eau. Alors, on parle du Saint-Laurent, là, le bassin hydrographique du Saint-Laurent et des Grands Lacs américains représente 25% des ressources en eau douce en surface de la planète. Alors c'est colossal, cette eau douce justement, elle est rare et aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'elle est menacée et par quoi en priorité? Les changements climatiques, la pollution?
J'ai envie de dire que la qualité de l'eau des fleuves dépend énormément des rejets anthropiques, des rejets de l'homme dans la rivière. Et les principaux rejets, je ne parle pas du Québec, mais on y reviendra, les principaux rejets, c'est quand même les eaux usées urbaines. Les eaux usées urbaines, et le problème principal de qualité des eaux à l'échelle de la planète, c'est les rejets, donc des toilettes, si vous voulez, qui arrivent dans les fleuves et qui polluent par des bactéries, lesquelles ensuite se retrouvent dans l'eau potable et les gens tombent malades. Et ça, c'est le problème numéro un, qui commence à être traité depuis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années en Europe. On a construit des stations d'épuration, mais c'est l'exception. L'essentiel des fleuves est aujourd'hui pollué par des excréments et rend les gens malades par les combinations bactériennes. Alors, ici, au Saint-Laurent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le bassin du Saint-Laurent, alors je parle sur le contrôle de mes collègues, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois qu'il y a 170 millions de personnes dont les eaux usées se répandent dans les Grands Lacs et finissent par arriver dans le Saint-Laurent. Quand elles arrivent ici, à Montréal, l'eau du Saint-Laurent est potable. C'est un cas exceptionnel, exceptionnel. Ça n'existe pratiquement que parce qu'il fait froid et parce que la débit du Saint-Laurent est énorme, et l'on rejoint le chiffre que vous avez donné, 25% des ressources en eau douce de la planète s'écoulent devant nous dans le Saint-Laurent. Mais dans les pays moins fortunés et moins pris, enfin, aidés par la nature, eh bien, je dirais que le problème essentiel, c'est la pollution bactérienne.
Donc globalement, les grands fleuves de notre planète, pour reprendre l'expression d'Éric Orsenna, sont, vous diriez, en mauvaise santé ?
Oui, ça s'améliore un peu dans les pays riches, dans les pays développés qui ont pu faire des traitements pour ramener la quantité de polluants à des choses inférieures. Mais dans les pays émergents, ils ont tous dit, écoutez, nous, notre priorité, c'est de produire et de fabriquer des choses, et puis l'environnement, on verra après. Hein, donc la qualité des eaux se dégrade. Hein, et le mouvement inverse qui est de dire, on va commencer par traiter et retirer de la pollution des fleuves, c'est pas encore démarré dans 9 dixièmes de la planète. Hein, donc c'est ça le problème numéro un. Alors ensuite, évidemment, si vous voulez qu'on en parle, le problème du changement climatique et de son effet sur le fonctionnement des fleuves, tant au point de vue de leur débit que de leurs caractéristiques biologiques et chimiques, c'est tout à fait important, bien évidemment.
Alors là, les conséquences des changements climatiques sont inégalement réparties dans le monde ?
Absolument. En gros, ce qu'on dit, il pleut l'eau, c'est mouillé. Là où il y a déjà des débits importants, eh bien, il va y en avoir plus. Et là où il en manque, eh bien, il va y en avoir moins, en simplifiant. En gros, les zones climatiques se déplacent vers les pôles. C'est-à-dire que, en gros, le Sahara remonte, hein, et les zones tempérées se déplacent vers le nord. Donc, le sud de la France va, par exemple, être plus proche de l'Algérie qu'elle ne l'est aujourd'hui, et le nord de la France va probablement être plus proche de ce que sera Stockholm dans quelques temps. Donc c'est un déplacement des zones climatiques, donc il y aura des zones riches et des zones plus pauvres qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Voilà pourquoi il est urgent de gérer durablement les grands fleuves de la planète, mais ce n'est pas simple, comme nous le verrons juste après une petite pause musicale avec l'exemple du fleuve Sénégal.
Samba djal kanambour Sudele le mala yo sambour Sudele le odi mudo yo sambour Urami mali chalamisa Samba mamudu demba jena makala Sadil na beeri nan ni lawol dara Bimbi mi ul koli wana dara wihe dara Don wihe ko wala dali na idaral salamu daral bil haqi manga malango pali mali gay siri mali gan kitilere loji weli garandi ewmi.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, vous avez bien raison. Nous sommes installés dans les bureaux du port de Montréal à l'occasion de la deuxième session des initiatives pour l'avenir des grands fleuves qui a réuni ici pendant 3 jours une vingtaine d'experts de tous les continents. Alors Madinba, vous êtes le secrétaire général, je le disais tout à l'heure, de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Alors c'est un fleuve majestueux, hein, ce fleuve Sénégal. Il prend sa source en Guinée, il sillonne le Mali, la Mauritanie et le Sénégal avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Depuis 40 ans, votre organisation est un modèle de gestion concertée entre différents pays, mais les défis sont immenses. Alors comment est-ce que vous faites pour prioriser les choses? Comme disait Éric Orsenna, il y a la navigation, il y a l'irrigation, il y a le développement de l'hydroélectricité, il y a aussi la lutte contre la salinisation qui remonte le fleuve.
Effectivement, c'est un très grand fleuve qui s'étend sur 1800 km. Ce qu'il faut rappeler, c'est le contexte qui a amené à la création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'était un contexte marqué par des inondations.
C'était en 1972.
Oui, des inondations qui dévastaient les villages, qui alternaient avec des sécheresses qui décimaient tout, qui faisaient qu'il n'y avait pas de vie. Il y avait des exodes, d'exodes rurales. Le fleuve était devenu salé parce que la langue salée montait de Saint-Louis jusqu'à Podor, sur 300 kilomètres, on ne pouvait plus boire de l'eau du fleuve, on ne pouvait plus faire de l'agriculture, le bétail n'avait plus de l'eau à boire. Les hommes d'État de l'époque ont pris conscience qu'il y a cette situation, il faut y remédier. Non seulement il faut y remédier, mais il fallait qu'au niveau, au plus haut niveau des États, qu'il y ait cette volonté politique de sceller ce destin commun. Parce qu'ils ont pris conscience aussi que seul, aucun des pays ne pouvait tirer le maximum de ce qu'ils souhaitaient du fleuve. Mais qu'ensemble, en mutualisant leurs efforts, ils pourraient le faire. Ils l'ont fait en créant l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le 11 mars 72 à Nouakchott, avec quatre objectifs. D'abord, la navigation, l'eau potable, l'agriculture et l'énergie.
Et 40 ans plus tard, alors, ça donne quoi ?
40 ans plus tard, ça a donné beaucoup de choses, parce que la ville de Nouakchott, qui était marquée jusqu'au début des années 2000, est alimentée actuellement à partir du fleuve Sénégal à 100%. Dakar, qui est alimenté aussi, 50% de ce que Dakar reçoit, soit 60 millions de mètres cubes par an, ça vient du fleuve Sénégal. Sur le plan de l'énergie, beaucoup de choses aussi ont été faites, parce qu'il y a eu le barrage de Diama, qui est un barrage anti-sel, mais il y a eu le barrage hydroélectrique de Manantali, qui produit 200 mégawatts. Il y a le barrage de Felou, qui produit 60 mégawatts. Et il y a le barrage de Gouina, qui est en cours de construction, qui produit 140 mégawatts.
Il y a de nombreux projets en cours, notamment en Guinée.
Oui, ça c'est les perspectives, c'est ce qu'on appelle les barrages de seconde génération en Guinée, qui pourront, une fois réalisés, porter le potentiel d'énergie à 2000 mégas. Et ça, c'est extrêmement important. On est sur la lancée. Sur le plan de l'agriculture, avant la construction des barrages, il n'y avait pas 10 000 hectares de culture. Après la construction des barrages de Manantali et de Diama, le potentiel irrigable directement à partir du fleuve est de 375 000 hectares.
Donc on voit que quand même les choses se sont bien développées, mais il y a encore beaucoup de travail devant vous. Hein.
Oui, il y a beaucoup de défis, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a un certain nombre de choses qui sont venues avec les barrages, des plantes aquatiques nuisibles. Il faut faire face à cela, qui obstruent l'essentiel de nos axes hydrauliques qui alimentent les périmètres irrigués. Et d'autres défis, en tout cas, que nous nous employons à régler, et qui s'appelle des voies d'accès de ces trucs, parce que c'est, chaque ouvrage est accompagné d'un certain nombre de voies de désenclavement. Nous avons aussi le microcentral, plus d'une trentaine de microcentrales qui sont identifiées et dont la construction est prévue.
Alors la difficulté, c'est que tout barrage bouleverse les écosystèmes et ça a des conséquences justement sur la santé des populations. Parfois, par exemple, le barrage de Diama dont vous parliez a créé la multiplication des petits mollusques qui portent le germe de la bilharziose, qui est cette maladie qui touche 200 millions de personnes dans le monde. On voit bien, Mirdad Kassandji, là, qu'on est justement dans la difficulté des choix.
Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut davantage discuter, ce qu'on est en train de faire autour d'un projet, bien étudier le projet. Il est évident qu'à chaque fois que vous perturbez le milieu, il peut avoir des conséquences importantes sur la santé. On prend un exemple, par exemple, des maladies émergentes. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont transmises par des mammifères qui sont dans la forêt, qui sont en général pas en contact avec l'homme. Au moment qu'on perturbe le milieu, ces animaux, ils peuvent être davantage, avec les mouvements des populations qui est autour, un danger pour l'homme par la suite. C'est pourquoi il faut discuter, il faut échanger avec des spécialistes, chacun dans son domaine, avant de se lancer dans
Mais est-ce qu'en Guyane, cette concertation existe, par exemple ?
Bien sûr, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a quelques années, il y a le barrage de Petit Saut en Guyane. EDF a créé une association autour de son projet pour préserver tous les animaux de barrage, parce que c'est un barrage de montée d'eau dans la forêt. L'Institut Pasteur était très impliqué dans ce projet, a étudié les agents pathogènes qui sont présents dans différents types d'animaux, que ce soit des mammifères ou des primates. Donc ça, c'est un type de projet qui peuvent être montés, qui peuvent être étudiés à l'avance, avant de se lancer dans des constructions d'un barrage, par exemple.
Elisabeth Hérault, vous vous occupez donc en tant que présidente de la Compagnie nationale du Rhône, Donc comment est-ce que vous réagissez, puisque c'est le principe de cet observatoire, aux témoignages, que ce soit sur le Maroni ou sur le fleuve Sénégal, des enjeux compte tenu de ce que vous avez à gérer sur le terrain?
Eric Orsenal a dit, tous les fleuves sont différents. Et pour autant, quand j'entends tous ces experts parler autour de la table, je me rends compte qu'on parle des mêmes sujets, même s'ils ne sont pas toujours exactement les mêmes. Voire d'ailleurs, un ouvrage sur le Saint-Laurent n'a rien à voir avec un ouvrage sur le Rhône qui est beaucoup plus petit. On n'est pas dans les mêmes échelles. Et pour autant, j'ai visité ce matin le barrage de Beauharnois et on a parlé le même langage, on a parlé des mêmes sujets de maintenance, on a parlé des mêmes sujets sur les anguilles, par exemple. Et même si la taille n'est pas la même, nous parlons des mêmes choses. Quand nous parlons du Rhône, nous parlons d'un fleuve qui est impétueux, qui transporte beaucoup de sédiments. Nous ne le retrouvons pas forcément sur le Saint-Laurent, mais nous le retrouvons sur le Maroni ou sur d'autres fleuves. Et donc, finalement, quand on passe l'ensemble des sujets qui sont évoqués, on se rend compte que tous ces fleuves, et c'était l'objectif des initiatives pour l'avenir des grands fleuves, tous ces fleuves ont une colonne vertébrale commune, qu'elle touche à l'irrigation, la navigation, etc. Et c'est cette colonne vertébrale commune qui devrait nous permettre de nous améliorer en regardant ce que d'autres ont fait de bien ou de moins bien. Donc les fleuves sont très différents, c'est vrai. Il y a des grands fleuves, il y a des fleuves puissants, il y a des fleuves plus petits, il y a des fleuves qui sont dans les régions chaudes, d'autres les régions froides. Nous n'avons pas, nous, par exemple, de sujet de glace sur le Rhône. Mais finalement, ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que les différences entre les fleuves.
Guyane Martilly, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des décalages, on va dire, dans la prise de conscience de l'importance de préserver les écosystèmes de ces grands fleuves. Est-ce que vous diriez quand même qu'aujourd'hui, il y a urgence à s'en préoccuper parce que l'eau est une ressource rare, finalement, hein ?
Oui, je dirais que le besoin de stocker l'eau est absolument évident. Ça a été dit très bien par M. Bas. Quand on a des inondations qui vous menacent ou des sécheresses de longue durée, la seule façon de faire pour réguler tout ça, c'est de construire des barrages. Les barrages ont mauvaise presse. Et ils ont mauvaise presse parce qu'effectivement, ils perturbent l'écoulement du fleuve et ils perturbent tous les écosystèmes en aval.
Donc ils entraînent des déplacements de population.
Oui, je parle même plutôt de l'environnement naturel, c'est-à-dire des écosystèmes. Les reproductions des poissons est liée, par exemple, à la présence de crues. Si ces crues n'ont pas lieu, le brochet ne se reproduit plus dans nos régions. Donc tous les écosystèmes sont modifiés de façon parfois extrêmement grave par la construction d'une retenue. Or, la construction d'une retenue ou de retenues dans le monde actuel est indispensable. Ça a été bien dit pour le Sénégal. Si vous allez au Burkina Faso où il pleut plus qu'à Paris, il pleut un mètre d'eau par an, à peu près 900 mm, eh bien, elle tombe en 3 mois. Comment voulez-vous faire pousser vos carottes au bout de 6 mois qui n'a pas plu ? Donc on est bien obligé de stocker d'une façon ou d'une autre. Donc il faut construire des barrages. Et je suis extrêmement désolé de voir que, disons, l'opinion publique est anti-barrage à 100% et ne propose pas d'alternative. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut peut-être réduire les impacts négatifs, améliorer,
quand même
restaurer, compenser, etc. Ouais. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut dire, bon, on a besoin de ces barrages, ils vont avoir un impact négatif. Voyons ce qu'on peut faire pour éviter ces impacts, les réduire et les compenser.
Eric Orsenna, là, on est en effet au cœur des choix, de l'interaction entre l'environnement, l'humain, la préservation, la nécessité de prévoir des réserves, parce que les changements climatiques agissent.
Vous savez, l'articulation aujourd'hui, c'est de produire plus, puisque nous sommes 8 milliards, nous serons 10 milliards, en respectant mieux. C'est à la fois nécessaire et possible. Ceux qui disent on va diminuer la croissance, on va diminuer la production d'énergie, ils voient bien que c'est pas possible. Donc il y a une contrainte.
On peut faire un peu d'efficacité énergétique, mais
bien
ça ne suffira pas.
Oui, mais ça ne suffira pas. Et donc il faut évidemment respecter mieux. Et ce qu'on voit avec les fleuves, c'est que on peut énormément améliorer et que dans un certain domaine, la France est en avance. Par exemple, dans le contrôle de la navigation sur un plan d'eau comme le Rhône, eh bien la Compagnie nationale du Rhône est plus avancée que le Saint-Laurent. Et dans d'autres domaines, ils sont plus forts. Donc ce qui est formidable, c'est d'avoir des représentants de 14 fleuves du monde et qui disent bah là, on est meilleur que vous. Mais là, on est moins bon. Donc aidez-nous. Et notre idée, c'est vraiment de pas seulement être une sorte de centre de réflexion, d'échange des idées générales sur la douceur des fleuves ou sur les risques pour la nature. On dit, on va améliorer les choses. Moi, je suis peut-être un raconteur d'histoire, mais aussi quelqu'un qui veut que ma chère planète aille un petit peu mieux. Et c'est possible. Pour moi, la vraie conception de la politique, c'est cette définition magnifique qui s'appelle l'art du possible. Eh bien, je pense que les 20 personnes que nous avons rassemblées sont des artistes du possible.
Quel est le prochain rendez-vous ?
Alors, le prochain rendez-vous n'est pas encore tout à fait précisé. Ça sera forcément l'Amérique latine, parce qu'il y a des barrages intéressants. Il y a des contraintes aussi très très grandes de façon climatique, parce que ce sont des pluies d'origine tropicale, avec des violences inouïes, avec des inondations terribles. Alors, vous savez, on dit la nature, c'est formidable, mais la nature, elle peut être terrible. La nature n'a pas toujours raison, et qu'il y a une articulation entre la nature et le savoir. Et dire qu'on va abandonner tout savoir et toute ambition humaine pour célébrer la nature, ça peut amener tout à fait des catastrophes. Qu'est-ce que la médecine ? C'est d'aller contre les forces mauvaises aussi à l'œuvre dans la nature. La nature n'est pas toujours la réponse à tout. Arrêtons cet obscurantisme rétrograde.
Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Demain, nous parlerons des indications géographiques protégées, un label qui permet de valoriser les terroirs et les savoir-faire des agriculteurs des pays en développement, comme ceux qui produisent par exemple le poivre de Penja ou le miel d'Oku au Cameroun. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure. Géopolitique, le débat.